Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1 avec Aïssa Thiam.
Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin avec un grand plaisir et nous parlons santé sur l'antenne d'Africa numéro 1 jusqu'à 10h dans le cadre de nos rendez-vous santé. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous rejoindre pour poser vos questions à nos invités sur le plateau pour nous raconter vos histoires autour de la thématique. C'est votre émission santé. N'hésitez surtout pas au 01 55 07 58 00. C'est le standard de la radio africaine. Nous parlons ce matin de l'accès aux soins. La France bénéficie d'un système de santé qui permet au mieux de répondre aux besoins de prévention et de soins de toute la population. Il existe un certain nombre de dispositifs de santé ou de soins accessibles en fonction du statut administratif de chaque personne. Il est important de comprendre comment s'orienter dans le système de santé en France, car pour pouvoir accéder à des soins ou pouvoir bénéficier d'une prise en charge des frais de santé, il faut faire quelques démarches administratives incontournables. Alors pour les personnes qui arrivent en France, parfois sans parler la langue, dans des conditions pas toujours très simples, ces démarches administratives peuvent vite être un problème de plus. Alors il est possible de se faire aider grâce à des associations d'interprétariat, on en parlera tout à l'heure, grâce à certaines associations qui peuvent aussi vous aider dans les démarches administratives. C'est ce dont nous allons parler ce matin avec nos invités, déjà installé sur le plateau de la radio africaine. Je vous présente donc nos invités sur le plateau de la radio africaine, Faustine Vicard, conseillère juridique à l'ARCAT. Donc, c'est une association de recherche, de communication et d'action pour l'accès au traitement qui rassemble des professionnels et des bénévoles qui unissent leurs compétences et leur sens civique au service de la lutte contre le sida notamment et d'autres pathologies associées. Avec nous également le docteur Madi Desnantes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Docteur, vous êtes à la maison de santé Pyrénées-Belleville et troisième invité sur le plateau, c'est Meriem Safouat. Vous êtes coordinatrice des actions de terrain à Migration Santé. Migration Santé qui mène des actions directement auprès d'un public migrant, donc sous plusieurs formes, présence d'orientation socio-sanitaire, accompagnement vers le système de santé, etc. Des permanences également dont nous donnerons les informations un petit peu plus tard dans cette émission. Alors, si vous voulez bien, mesdames, on va d'abord écouter un petit micro-trottoir sur l'accès aux soins enregistré dans les rues de la capitale et on se retrouve juste après.
J'ai la carte vitale, mais le reste, c'est une mutuelle. J'ai fait le dossier comme tout le monde, mais ils l'ont rejeté. J'ai pris la mutuelle pour la famille. Je paye tout le temps. Pour moi, pour ma femme, pour mon fils. Je fais que payer.
Je n'ai pas le papier jusqu'à maintenant. Je fais au moins 19 ans maintenant. Je suis sans papier. Chez le médecin, à des fois, je prends le médicament, mais à des fois, il dit non. Si il dit non, je pars à l'hôpital. Je prends le traitement gratuit. Tu es sans papier. Tu n'as rien du tout. Pas aide, rien du tout.
J'ai 70%, donc je ne paye pas en globalité. J'ai mon cousin qui vient d'Afrique, il n'a pas encore tous ses papiers, donc il n'est pas couvert totalement. Quoi. Et pour aller chez le médecin, il doit payer cher en fait.
Il faut payer la consultation, il faut payer les médicaments, il faut les avoir. La dernière fois, moi, j'ai été hospitalisé à l'hôpital de Corbeil et je suis parti en précarité. Il fallait voir l'assistance sociale pour qu'il me donne l'accord d'être hospitalisé. C'est un peu difficile.
Alors, on voit bien tous ces cas particuliers, toutes ces problématiques rencontrées par les personnes que nous venons d'entendre. Alors, d'abord, peut-être avec vous, docteur Madi Desnantes, l'accès aux soins, c'est quoi, en plus d'être un droit fondamental en France ?
Alors, l'accès aux soins, c'est déjà, il faut parler de la sécurité sociale, cette sécurité sociale qui a été créée après la guerre en 1945 et qui est une chose, il faut le dire, magnifique, puisque le principe, c'est qu'on paye en fonction de ce qu'on gagne et on reçoit en fonction de ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, si on est riche, on cotise beaucoup. Si on est pauvre, on ne donne pas beaucoup. Par contre, quand on est malade, tout le monde est soigné pareil.
Oui.
Donc ça, c'est une belle aventure, une belle histoire. Et ça existe encore, et il faut le dire, la sécurité sociale, c'est quelque chose, c'est une belle chose. Et on peut en être fier. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité sociale, elle prend en charge, je vais faire à 70%, c'est pas toujours 70, mais elle prend en charge à 70%. Donc par exemple, quand vous allez chez le généraliste, la consultation c'est 25 €.
Oui.
La sécurité sociale, elle prend en charge 16,50 € et il reste les 30%. Et ces 30%, soit c'est la personne qui les paye, soit elle a une assurance complémentaire. C'est ce que quelqu'un disait, il faut avoir une mutuelle. Et la mutuelle, il faut la payer. une mutuelle ou une assurance complémentaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une maladie grave, hélas, si on a un diabète, si on a un cancer, si on a une maladie infectieuse comme le sida, on est pris en charge à 100%.
Oui.
Donc là, il n'y a plus les 70-30%, la Sécurité sociale paye à 100%, prend en charge à 100% les maladies graves. Voilà. Donc il faut bien comprendre la différence entre sécurité sociale et complémentaire. Et hélas, mais on y reviendra peut-être après,
oui,
les complémentaires, ce n'est pas un système solidaire. Les complémentaires, ben, tout le monde paye pareil, et si vous n'avez pas pris une bonne complémentaire, vous n'êtes pas bien remboursé. Donc c'est l'inverse de notre belle histoire de la sécurité sociale.
Alors, il y a plusieurs éléments qui expliquent la difficulté d'accès aux soins pour une catégorie de la population, dont les plus démunis. Alors, on parle de perte de repères ou de réflexes de recours aux soins, d'ignorance ou de méconnaissance de ses droits, de manque d'initiative pour effectuer les démarches administratives ou également le fait de se heurter à la complexité et à la lenteur de certaines procédures. Alors c'est peut-être aussi ce que vous constatez sur le terrain, Myriam Safouat.
Oui, tout à fait. Alors la difficulté se présente pour les personnes déjà, comme vous l'avez cité, en situation irrégulière ou des primo-arrivants,
oui,
qui viennent d'arriver sur le sol français. En effet, ils méconnaissent le droit pour l'accès aux soins. Un dispositif qui existe et qui permet très bien à ces personnes, sous certaines conditions bien sûr, et de faire la démarche pour accéder à l'aide médicale d'État. Alors l'aide médicale d'État permet à ces personnes sous condition de résidence en France de plus de 3 mois avec des ressources qu'il ne faut pas dépasser, un plafond à ne pas dépasser, et il va falloir aussi bien sûr faire la demande. Ils peuvent demander à des assistantes sociales de la sécurité sociale, dans les CCAS, les CCAS, Centres communaux d'action sociale, dans,
oui,
les mairies. Ils peuvent être accompagnés par des associations pour instruire ce dossier. Et en général, avec un justificatif comme quoi ils sont entrés sur le territoire français, ils peuvent bénéficier de cette aide médicale d'État qui peut leur permettre d'accéder aux soins et de maintenir un parcours de soins.
Alors vous, Faustine Villard, qui suivez des personnes malades qui ont des pathologies assez lourdes comme le VIH, qu'est-ce que vous constatez? Quelles sont leurs difficultés pour accéder aux soins?
Effectivement, on constate qu'il y a une méconnaissance dans les dispositifs, et nous, on essaie d'accompagner au mieux vers les dispositifs qui existent.
Oui.
Et je voulais rebondir, on a entendu sur le micro-trottoir cette personne qui expliquait que ça faisait 19 ans qu'elle était sans papier et sans droit, qu'elle a des droits. Il y a des droits, et notamment dans l'accès aux soins, avec ce dispositif dont a parlé Myriam de l'aide médicale d'État, et qu'il faut absolument se rapprocher d'associations et de professionnels pour faire valoir ces droits, et notamment l'accès aux soins, qui est quand même un droit fondamental.
Comment expliquer que cette personne ne sache pas, au bout de 19 ans, qu'il existe cette possibilité?
Alors ça, c'est une très bonne question. C'est justement, il y a une mésinformation. Et il est important qu'il se rapproche d'associations, de structures de santé gratuite qui peuvent les accompagner dans ces démarches et les aider à accéder à leurs droits.
Alors nous allons écouter le témoignage de Modibo, étudiant. Il parle de ses difficultés pour accéder aux soins. On écoute son témoignage et on se retrouve juste après.
Je suis étudiant en droit et en sciences politiques, j'ai 23 ans, de nationalité malienne. Je peux moi-même faire les démarches. Quand j'étais venu en France, j'avais fait la demande des CMU 2014-2015. Je l'ai eu. Et par la suite, je voulais renouveler. Et c'est à ce moment que j'ai eu des difficultés. J'ai envoyé le dossier, on me l'a retourné plusieurs fois pour X raisons. Et par la suite, on m'a refusé. Et quand on m'a refusé, j'ai tenté le recours gracieux auprès de la CPAM, le recours auprès de la Commission départementale d'action sociale. Bon, ça a pris beaucoup de temps. Depuis 2015 jusqu'à 2016, j'ai pas eu de nouvelles. Et ensuite, ils m'ont envoyé des courriers un an après pour me dire que si je veux continuer mon recours, je dois envoyer quelques dossiers encore. J'ai dû abandonner parce que la CMU, déjà, c'est une année. Si le recours prend plus de 2 ans, c'est pas sérieux, quoi. Comme je suis toujours étudiant, j'ai la mutuelle étudiante. mais cela n'est pas trop avantageux parce que quand on va à la pharmacie pour acheter des médicaments, on nous demande d'avancer, nous, de notre côté, ensuite d'envoyer le dossier à la mutuelle étudiante. Vu que je n'ai pas la CMU et que j'ai que la mutuelle étudiante, je voulais savoir si finalement j'avais pas la mutuelle étudiante, qu'est-ce que j'allais faire pour pouvoir me soigner en France, parce que c'est la seule chose qui me reste. Et donc si je ne l'ai pas, je me demande si y a autre chose qui est là pour les étudiants ou pour les étrangers.
On comprend bien l'histoire de Modibo. Alors la question qu'il pose à la fin, avant de revenir sur d'autres éléments, alors qu'est-ce qu'il aurait eu comme possibilité d'accès aux soins s'il n'avait pas eu cette mutuelle étudiante? Oui, alors, allez-y docteur.
Hélas, on devrait avoir un système simple et on rajoute plein de choses et c'est compliqué. En fait, Modibo est étudiant, donc il a la sécu de base. Alors qu'il appelle mutuelle étudiante... Alors,
déjà, il a eu la première demande acceptée, la deuxième demande refusée.
Non, il a la sécurité de base. Il est étudiant. Tout le monde en France qui vit en France avec un droit au séjour a la sécurité sociale qu'on appelle la PUMa. Tout le monde a ça. Et Modibo a ça. Et lui, il appelle ça mutuelle étudiante, mais c'est la sécurité sociale de base. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne prend en charge que 70%. Pour la partie qui reste, il faut trouver une mutuelle ou une assurance complémentaire. Et Modibo, lui, il a fait une demande et il a eu au début la CMU complémentaire. Donc quand les chiffres, donc peut-être on les aura, mais quand on gagne une personne seule moins de 720 euros par mois, on peut demander la CMU complémentaire.
MUC, ouais.
CMUC qui est une bonne complémentaire. Et Modibo a eu ça. Et là, son problème, c'est qu'il n'arrive pas à la faire renouveler, on lui demande des tonnes de papiers. Et moi, j'entends bien Modibo parce que j'ai beaucoup de patients à qui ça arrive. Oui. Et c'est terrible. Ils ont droit, je sais qu'ils gagnent moins de 720 euros par mois, mais ils sont noyés dans des refus. On leur demande des trucs, des machins. Et ça, c'est scandaleux. Et vraiment, alors, qu'est-ce que peut faire Modibo? Il faut là qu'il soit aidé. Donc, il faut qu'il soit aidé, soit par des services sociaux, par des associations. Peut-être vous pourrez conseiller où Modibo doit aller. Moi, à ma maison de santé, on a un réseau où on peut adresser. Oui. Mais même avec notre réseau, moi, j'ai des patients comme Modibo où c'est un casse-tête pour qu'ils aient cette CMUC. Et cette CMUC, je voudrais dire, c'est quelque chose qui marche bien. C'est une bonne complémentaire, donc qui fait qu'on est pris en charge à 100% et qui
pendant
fait...
Pendant un an.
Donc oui, après, il faut renouveler. Ouais. Donc ça, c'est un souci. Et qui fait aussi qu'on n'avance pas les frais. Quand on n'avance pas les frais, c'est ce qu'on appelle le tiers payant. Quand on va chez le médecin, chez le pharmacien, chez l'infirmier, chez un soignant, on présente sa carte et son attestation et on ne... n'avance pas les frais, le soignant est payé directement. Voilà, avec la CMUC, comme avec l'AME d'ailleurs, mais on n'avance pas les frais. Donc pour des gens qui ont des tout petits budgets, c'est un vrai avantage et un vrai plus pour accéder aux soins.
Mariam Safouat.
Oui, je voulais juste rajouter, enfin plutôt préciser par rapport à ce jeune étudiant.
Oui.
Alors pour la CMUC, s'il est étudiant et s'il n'a pas de ressources... En fait, jusqu'au plafond qui est bien connu pour la CMUC, il ne fait pas dépasser 8 723 euros. Peut-être
par an.
Et moi, tout à fait. Il pourra pas bénéficier de la CMUC. Dans son cas, peut-être c'est la PUMa à laquelle il aura droit. Et je voulais aussi rappeler ce que c'est que la PUMa, puisque on n'a pas dit que c'était une protection universelle maladie qui garantit justement à toute personne qui travaille ou réside en France de plus de 3 mois la prise en charge de ses frais de santé. À savoir que c'est ça ce qui a remplacé la CMU de base, c'est que la PUMa, on n'est plus dans l'obligation de travailler tant d'heures pour pouvoir bénéficier d'une protection. C'est même si on ne travaille pas ou on travaille quelques heures, juste le fait de résider en France de plus de 3 mois, on peut bénéficier de la PUMa. Et bien sûr, il faut toujours en faire la demande.
Plus de 6 mois par an aussi, je pense, résider en France, plus de 6 mois par an aussi, dans les conditions.
Oui, en tout cas, déjà pour faire la demande, il faut justifier la présence en France plus de 3 mois. C'est-à-dire, dans l'instruction des dossiers, il faut vraiment justifier ces 3 quittances de loyer consécutives ou 3 quittances de DF. Si on est hébergé, pareil, une attestation sur l'honneur de la personne qui héberge, le demandeur avec toujours 3 quittances de loyer successives ou de DF, oui, ou de téléphone fixe, jamais de téléphone portable, la personne, là, elle peut bénéficier de la PUMa, qui est la protection
si
universelle.
La personne, il faut qu'elle ait un titre de séjour, on est d'accord. C'est pour les gens qui ont un titre de séjour.
Exactement, c'est quand on est en situation régulière en France.
Rosine Villard ?
Oui, c'est effectivement ça que je voulais clarifier, parce qu'on donne beaucoup d'informations, c'est que l'aide médicale d'État, c'est pour les personnes qui sont en situation irrégulière, qui doivent justifier 3 mois de présence en France, mais pas besoin de justifier d'un titre de séjour ou de régularité
d'accord
de séjour. La réforme PUMa et cette, l'affiliation au régime général, c'est pour les personnes en situation régulière. Mais en situation irrégulière ou régulière, on bénéficie de l'accès aux soins et d'une prise en charge.
Alors au téléphone, c'est Jomo Deben qui nous rejoint. Bonjour Jomo.
Oui, bonjour Aïssa, bonjour à nos chers docteurs.
Allons-y rapidement, Jomo, on n'a pas beaucoup de temps ce matin.
Voilà, moi je dis que par rapport au témoignage du monsieur, il faudrait l'analyser sur deux aspects. Est-ce que le monsieur,
Modibo,
c'est vrai qu'il est... Oui, allô, vous m'écoutez?
Oui, on vous entend.
C'est Modibo parce que moi je travaille en PMI, et dans notre PMI, on a même un agent de la sécurité sociale qui se déplace une fois par mois pour venir récupérer les dossiers des personnes qui n'ont pas, qui ne sont même pas en situation régulière et aussi en situation régulière, afin de pouvoir leur faciliter les démarches. C'est-à-dire, au lieu que la sécurité sociale se déplace, au lieu que l'assuré se déplace vers la sécurité sociale, c'est la sécurité sociale qui se déplace vers l'assuré.
Oui.
Mais dans ce cas-là, il faut le voir sur deux aspects. Les étudiants travaillent souvent. Et est-ce que le cas de Modibo, c'est pas parce qu'il dépasse le quota de 720 euros ou peut-être qu'il y a d'autres choses sous-entendues? Parce que quand on emmène un dossier et qu'on nous dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut. Et parlant de cela, moi je dis que le soin, il est donné parce que moi je travaille plus avec les enfants et les mamans même qui n'ont pas de papier, les vaccins sont gratuits. C'est-à-dire que c'est pas gratuit pour la sécurité sociale, mais c'est gratuit pour eux parce qu'ils ont la CMU complémentaire ou ils ont la CMU. Mais lorsqu'on a un petit travail, la CMU complémentaire seule ne suffit plus parce qu'on a un revenu, il faut avoir une mutuelle. Et avec cette mutuelle annule la gratuité des soins. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si nous avons une mutuelle,
oui,
la mutuelle vient en compensation avec la sécu. C'est-à-dire que, comme le docteur, le docteur vient de le signifier sur votre antenne, c'est dit que les 70% sont pris et les 30% sont payés par votre mutuelle. Moi, j'en ai bénéficié, je n'en bénéficie plus parce que je travaille. Et donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas dire que nous avons un problème de régularisation ou un problème de ceci ou de cela. Non, il faut bien l'analyser et bien cibler le problème.
Merci. Alors, je vous ai vu réagir, hein, mesdames les unes les autres. Alors, je pense qu'on va prendre une deuxième question et que juste après la pause publicitaire, on répondra d'un coup aux deux questions. C'est Ousmane qui nous rejoint. Bonjour Ousmane, vous allez bien?
Oui, bonjour Aïssa.
Alors, je vais lire votre question pour aller plus vite parce qu'on n'a qu'une minute avant la pause. Je suis retraitée et je voudrais savoir si je vais au Sénégal, mes frais de santé seront-ils pris en charge? C'est difficile pour moi de partir, donc je voudrais savoir aussi pourquoi ma mutuelle a doublé de prix depuis quelques années. Alors, qui veut répondre rapidement à cette deuxième question et puis on répondra à la première tout à l'heure. Allez-y, docteur.
Alors, la mutuelle qui double de prix, ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les mutuelles ne sont pas des systèmes solidaires, c'est des systèmes on peut doubler le prix, on peut en choisir une bonne, une pas bonne. La mutuelle n'est pas solidaire, mais je rappelle que la sécurité sociale, elle est solidaire. Donc, pour la mutuelle, ben, c'est le système des complémentaires et j'aimerais bien que ce système y bouge et qu'il s'améliore en France. Mais pour l'instant, ce n'est pas un système solidaire et ça peut doubler
alors,
de prix comme ça.
Cet auditeur a cotisé pendant de nombreuses années. Il doit retourner au Sénégal. Est-ce que ses frais de santé,
oui,
seront pris en charge?
Alors, il faut qu'il. C'est-à-dire, le temps qu'il sera. Il peut emmener au Sénégal son traitement. Par exemple, s'il part 3 mois, il peut emmener 3 mois de traitement avec l'accord du médecin conseil de la sécurité sociale, mais qui ne pose pas de problème. Il peut emmener le stock de médicaments nécessaires pendant son séjour au Sénégal.
Et s'il a un souci de santé, par exemple, et qu'il est obligé de revenir en France, est-ce qu'il sera pris en charge? Est-ce qu'il aura accès aux soins?
Il sera pris en charge. Tout simplement, cette personne, je lui conseille de se rapprocher de la CEPAM et de signaler qu'il va partir dans son pays. Il faut vraiment le mentionner.
D'accord. On va y revenir, si vous voulez bien, mesdames, dans un petit instant et répondre à la question de Jomo dans un instant. Bougez pas.
Afrique. Africa.
Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1 avec Aïssa Thiam.
De retour en direct, nous parlons avec nos invités de l'accès aux soins. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, nous raconter vos histoires autour de la thématique. Donc n'hésitez pas, ça se passe au standard de la radio africaine. Avant la pause publicitaire, c'est Ousmane qui nous posait une question sur sa situation de retraité qui doit retourner au Sénégal. Il a quelques craintes au niveau de l'accès aux soins. Alors on a commencé à lui apporter quelques éléments de réponse. Premier élément, il y en a d'autres parce que on n'a pas eu tous les éléments dans sa question. Alors peut-être que Meriem Safouat, vous voulez apporter d'autres éléments à Ousmane.
Oui, alors pour une personne qui part à l'étranger en fait et qui a un souci de santé sur place dans n'importe quel pays, il faut savoir que elle doit bien garder, si elle paye de sa poche tous les frais de soins, il faut garder les factures, les justificatifs, les devis, enfin tout ce qu'elle a pu dépenser comme argent. Oui. Et une fois de retour en France, il faut faire une demande de remboursement de frais des soins à l'étranger. En fait, ça prend du temps, mais il ne faut pas hésiter. Il y a un formulaire sur, sur le site d'Amélie. Il faut télécharger le formulaire, le remplir, mettre toutes les pièces justificatives et envoyer ce dossier à la CEPAM qui, en fait, une commission décide après et on est remboursé pour les soins qui ont été procurés à l'étranger. Oui. Il ne faut pas que ces soins soient programmés, c'est-à-dire je vais dans tel pays pour me soigner pour ça. Non, si un accident arrive, s'il y a eu un problème de santé sur place, là on garde les justificatifs et on se fait rembourser en France.
D'accord. Alors, dernière possibilité, hein, si jamais il retourne au Sénégal, il reste plus d'un an, disons, et qu'il a besoin de revenir pour se soigner, qu'il a une maladie qui surgit comme ça, comment ça se passe pour sa prise en charge? Qui veut répondre? Docteur Madi? Dénon
bah, oui. Ouais. Moi, oui. Je ne sais pas précisément la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas parlé non plus des PASS, qui sont les permanences d'accès aux soins de santé.
Oui.
On a parlé de l'aide médicale, 3 mois. Pour les personnes qui seraient en situation irrégulière, qui viendraient d'arriver, primo-arrivante, il existe un dispositif qui permet d'accéder aux soins. Ce sont les permanences d'accès aux soins de santé. C'est gratuit.
Oui.
Elles sont mises en place dans les hôpitaux publics.
Oui.
Y a des... Ça peut être généraliste ou spécialisé. Et voilà, les gens peuvent se rendre dans les hôpitaux publics, demander les passes et bénéficier de traitements gratuits et de consultations gratuites. Et c'est très important, voilà, de dire qu'il existe même dans cette période avant les 3 mois où on peut bénéficier d'un dispositif,
oui,
de ces permanences d'accès aux soins de santé qui sont absolument gratuites pour les gens.
Oui, allez-y, docteur.
Et j'enchaîne sur pour rappeler qu'il y a aussi des structures en France qui sont totalement gratuites et dont le premier auditeur qui a pris la parole nous a parlé. Donc elles sont complètement gratuites et ouvertes à tous et sans question ni de durée de séjour, ni de titre de séjour.
Oui.
Ni... Ce sont, il nous a parlé des PMI. PMI, ça veut dire protection maternelle et infantile, pour les suivis de grossesse et pour les enfants jusqu'à 6 ans. Et donc là, c'est ouvert à tous et c'est totalement gratuit pour tous.
Oui.
Des PMI, il y en a partout. Il faut parler aussi du planning. Le planning, c'est les centres de planification familiale pour tout ce qui est contraception et IVG. Donc des plannings, il y en a aussi. Ils sont ouverts à tous et totalement gratuits.
Oui.
Les CEGID, c'est les centres gratuits d'information, de dépistage, de diagnostic des infections par le virus de VIH, les hépatites et les maladies sexuellement transmissibles. Là aussi, ouvert à tous et totalement gratuit. Les CLAT, c'est les centres de lutte anti-tuberculose. Et là aussi, c'est totalement gratuit et ouvert à tous. Donc voilà, il y a des structures où on ne demande aucun papier, c'est même anonyme et où tout le monde a accès. Il faut savoir que ça existe. En plus des structures, bien sûr, du système de protection sociale dont on a parlé avant.
Alors, on a parlé de la protection universelle maladie, Puma, on a parlé de la CMU. Alors, la CMUC, c'est la couverture complémentaire universelle. Alors, qui peut en bénéficier? Qui veut répondre?
Toute personne qui réside en France en situation régulière, qui travaillent ou qui est à la retraite, mais par contre, dans les ressources, ne doivent pas dépasser 8 723 euros par an sur les 12 mois. Donc ça, et puis justifier bien sûr de la résidence en France, Bon, c'est vrai que le dossier, il faut instruire un dossier. Il y a beaucoup de papiers à fournir, la déclaration d'impôt, quittance de loyer ou bien justificatif de domicile. Bon, une attestation de droit à la sécurité sociale, les ressources.
Oui.
Bon, les ressources, bien sûr, une personne qui travaille doit aussi donner les 12 dernières fiches de paye.
Oui.
Pour une personne à la retraite, c'est pas le même cas parce que on donne aussi notre numéro de CAF, d'allocataire à la CAF. Pour la personne à la retraite, il faut aussi justifier de ses ressources, c'est-à-dire sa pension retraite, sa complémentaire retraite. Et tous ces montants sur les 12 derniers mois ne doivent pas dépasser 8 723. Quand on dépasse ce montant, après, on peut de 30%, ce qui fait un montant de 11 776 euros par an. Là, on peut bénéficier d'une ACS. ACS, c'est quoi? C'est une aide complémentaire santé.
Oui.
Alors ça, la Sécurité sociale vous envoie des chèques papier. Cela dépend des ressources, de la composition du foyer.
Oui.
Et avec ce chèque, la personne peut choisir une mutuelle qui doit exister sur la liste agréée par la Sécu.
D'accord.
Et puis, là, elle peut choisir une mutuelle et puis envoyer ce chèque à cette mutuelle. Et là, voilà, c'est une aide pour la complémentaire santé et elle aura une mutuelle qui couvre ses frais de santé.
Docteur Ramadi Dinant.
Ma question, quand je vous écoute, mais c'est génial tout ce qui existe quand même, mais c'est quand même très complexe. Je le vois avec mes patients, très complexe. Faire les dossiers, c'est des tas de papiers. Et ma question, c'est qui peut aider mes patients et les auditeurs à faire tous ces dossiers? Parce que tout à l'heure, l'auditeur nous disait, et ça, j'ai trouvé ça génial,
oui.
Lui, dans sa PMI, il y a l'agent de la CPAM. Alors, je traduis CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, c'est ce que moi j'appelle la Sécu. Il y a un agent de la Sécu qui vient dans la PMI. Donc, c'est génial. Il est là, il aide, il fait tout de suite. Mais moi, je pose la question à Myriam, c'est qui peut aider mes patients à faire tous ces dossiers compliqués?
Alors,
les associations, les assistantes sociales peut-être aussi, non?
Alors justement, les assistantes sociales de la Caisse primaire d'assurance maladie, il y a des agences qui existent encore ouvertes et qui peuvent accueillir ces personnes.
Oui.
Sinon, après, il y a les centres communaux d'action sociale qui se trouvent au sein des mairies. Il faut se rapprocher aussi de la mairie là où on habite. Il y a le centre communal d'action sociale. Il y a des assistantes sociales qui peuvent vous aider dans les démarches. Il y a les services sanitaires et sociaux, comme par exemple les passes. Quand on va à la permanence d'accès aux soins, à la santé au sein d'un hôpital, on est reçu en premier lieu par une assistante sociale qui fait le point avec vous avant
D'accord.
de vous orienter vers le médecin.
Oui.
Elle peut vous aider dans la démarche par rapport à votre situation, votre présence en France, pour que ce soit l'AES, l'ACS, la CMU, l'aide médicale d'État. Donc, il y a une aide possible. Il y a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, les associations agréées. Donc, il y a des associations qui peuvent instruire ces dossiers d'accès aux soins.
C'est le cas de Migration Santé, qui propose des permanences.
Oui, voilà. Donc, Migration Santé assure des permanences tous les vendredis dans les locaux de Migration Santé à Paris 14e.
Oui.
Il y a aussi une permanence le 4e samedi du mois à la Cité de la Santé, Porte de la Villette, au sein de la Cité des Sciences et de l'Industrie. 4e samedi, sans rendez-vous, de 14h à 18h. Et puis une autre permanence, le 2e jeudi du mois, au centre Pompidou, à la BPI du centre Pompidou, Georges Pompidou, de 14h à 18h, sans rendez-vous. Donc là-bas, on peut recevoir les personnes, on instruit les dossiers, on les aide dans les démarches.
Alors, il y a des soutiens juridiques également proposés par la CIMAD et la COMED notamment. C'est important de le dire aux auditeurs qui nous écoutent, Myriam.
Oui, tout à fait. Et il y a aussi un espace droit, justement, qui est assuré par la CIMAD et le COMED. Et c'est à Vicenne, hein, au sein de l'hôpital.
Oui.
Donc, ça se trouve à Bobigny. Et oui, ça, c'est pour l'accès aux soins pour les personnes sans couverture sociale et malades.
Alors, vous, Faustine Villard, si j'ai bien compris, votre spécificité, c'est l'aide à l'obtention des titres de séjour pour soins, la carte de séjour temporaire pour les personnes atteintes de maladies graves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ce dispositif et qui peut en bénéficier?
Oui, alors, Il faut savoir qu'en France, il existe quelque chose d'assez spécifique, qui est la carte de séjour pour raison médicale, qui existe depuis, effectivement depuis 1998, qui est le résultat d'un combat associatif, notamment des associations de lutte contre le VIH.
Oui.
Cette carte, elle permet un droit au séjour d'une carte mention vie privée et familiale, donc pas de mention de la pathologie ou écrit malade, secret médical toujours qui prime.
Oui.
Elle permet aux personnes atteintes d'une pathologie grave et qui nécessite une prise en charge médicale, on est vraiment dans du curatif, hein, aussi du préventif parfois, mais et qui risqueraient en cas de retour dans leur pays d'origine une dégradation de leur état de santé. Ce titre de séjour, il va se faire par le biais d'une évaluation médicale, en fait.
D'accord.
Et qui va mettre en perspective l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine.
Oui.
Et sur la base de cette évaluation médicale, un titre de séjour peut être remis à des personnes qui sont atteintes de pathologies graves. J'invite évidemment les gens à se rapprocher d'associations spécialisées en accompagnement médical.
Lesquelles ?
Sociaux, ben, notamment le COMED, ouais, la CIMAD, ouais, aussi également. Parce que c'est un titre qui nécessite véritablement une évaluation médicale. Il n'y a pas un droit automatique.
Ouais, il y a une enquête qui est effectuée. Ouais.
Voilà, donc il faut vraiment. C'est quelque chose qui se fait en lien avec plusieurs professionnels pour évaluer la pertinence du dépôt et les chances d'aboutissement. Alors, ces dépôts, ils se font à la préfecture, évidemment. Voilà. Mais il existe cette possibilité, qui est parfois méconnue, de pouvoir disposer justement d'un titre de séjour pour s'inscrire dans une démarche de soins et d'observance aussi des traitements.
Alors,
ça, c'est vraiment important.
Mariam, ça fait un mot sur ce dispositif ?
Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il faut se rapprocher surtout de la CIMAD et le COMED parce qu'il y a une équipe pluridisciplinaire, des assistantes sociales, des médecins, médecins. Il y a aussi enfin, de l'éducation thérapeutique des patients.
Oui.
On fait une évaluation pour pouvoir présenter une demande d'un titre de séjour pour soins. Et c'est vrai que c'est la réponse revient en fin de compte au préfet. Et aussi le médecin de l'ARS, de l'Agence régionale de santé Souplie. Donc voilà.
Ça a été transféré récemment cette compétence médicale. C'était les ARS, hein, anciennement sous ministère de la Santé.
Oui.
Dorénavant, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est en charge des dossiers. C'est tout récent, hein, c'est janvier 2017. Voilà, et c'est eux qui sont en charge de l'instruction et de l'évaluation médicale des dossiers étrangers malades et ils transmettent au préfet. Peut-être en termes de conditions pour le titre de séjour, juste rappeler qu'on va considérer qu'il faut une résidence habituelle en France.
Oui.
Les préfectures considéreront que c'est une année de présence. Donc au bout d'une année, on peut envisager un dépôt en préfecture pour faire une demande de titre de séjour pour soins.
Alors pour toutes ces demandes, tous ces échanges administratifs, lorsqu'on n'a pas d'adresse, lorsqu'on n'a pas de lieu fixe, comment on fait ?
Là, il faut aller vers les associations. Il y a des associations agréées pour les domiciliations. Donc, c'est vrai que souvent, elles sont surbookées. On ne trouve pas de place. Il faut des rendez-vous. Il faut attendre. Alors, mais c'est les associations qui peuvent donner une domiciliation, une attestation de domiciliation. Ou bien aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, le centre communal d'action sociale. Sur certains, il domicilie aussi les personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Ou si on est hébergé chez une personne, on peut aussi présenter un dossier. Il n'y a pas de problème. Il faut en fait juste toujours faire la démarche.
Alors, il existe également des dispositifs, pour l'interprétariat, puisqu'il y a certaines personnes qui ont du mal à communiquer avec les personnels de santé, à se faire comprendre. Comment on fait si on a besoin d'un interprète pour ces démarches ? On s'adresse à qui ?
On s'adresse à l'ISM Interservices Migrants. En fait, c'est une association, mais le problème, malheureusement, c'est cher pour avoir un interprète. Ça coûte vraiment cher. Mais par contre, si on est au sein d'un hôpital et que la personne ne parle pas français, des fois, on peut avoir à disposition un interprète pour que le professionnel de santé puisse communiquer avec le patient.
Oui.
Mais ce n'est pas toujours le cas.
Qui veut rajouter quelque chose ? Peut-être Faustine Villa ?
Par rapport à l'interprétariat, bah, effectivement, il y a ce dispositif, l'ISM qui existe. Et c'est vrai que les associations, quand on s'en rapproche, peuvent faire appel aux interprètes pour être certain que les personnes qu'on accompagne comprennent les informations qu'on leur donne. Parce que la barrière de la langue, c'est souvent compliqué. Avec des... Là, on a énuméré un certain nombre de dispositifs, mais pour la clarté, ce n'est pas toujours clair. Et il existe cette possibilité de bénéficier d'un interprète et d'en faire la demande. Il ne faut pas hésiter parce que les associations peuvent avoir des relais au niveau des interprètes pour être sûres de donner l'ensemble des informations et une meilleure compréhension pour les gens.
Alors c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, on a donné beaucoup d'informations tout au long de cette émission. Peut-être profiter des dernières minutes pour essayer de synthétiser et de rappeler tout ce qui est important à retenir. Peut-être, docteur Madi des Nantes, qu'est-ce qu'on pourrait préciser, qu'est-ce qui serait important de retenir de cette émission ce matin?
Je voulais surtout parler de dans le système de soins quand on est à la sécurité sociale, qu'on a une assurance complémentaire, rappeler que c'est bien d'avoir un médecin traitant. Oui. C'est pas bien, c'est obligé. Adultes et enfants maintenant doivent avoir un médecin traitant, donc il faut penser et avoir ce médecin traitant qui en général est un médecin généraliste et qui va un peu guider dans le système de soins, qui va guider, conseiller s'il y a besoin d'aide pour faire les papiers, ouais. Et puis surtout guider sur tout le système complexe, quand est-ce qu'on va à l'hôpital, quand est-ce qu'on va voir un médecin spécialiste d'organes, et ça c'est le médecin traitant qui est en charge d'accompagner son patient sur ce système de soins un peu complexe. Donc il faut avoir un médecin traitant et c'est lui qui va guider pour savoir qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on le fait, et qui va éviter aussi de passer aux urgences quand ce n'est pas nécessaire, par exemple. Parce que les urgences, c'est magnifique. Si on a un accident brutal, ça intervient tout de suite. Mais les urgences, ce n'est pas fait quand on a de la fièvre ou quand on a mal à la gorge ou quand on a mal au dos. Ce n'est pas aux urgences qu'il faut aller, c'est chez son médecin traitant. Et donc, le médecin traitant a un peu pour rôle d'aider le patient à savoir où aller quand il a un problème de santé.
Alors, Faustine Villard, qu'est-ce qui vous semble essentiel?
C'est de dire que là, on a un petit peu listé un certain nombre de dispositifs existants, mais c'est de dire aux gens que, quelle que soit la situation en France, oui. L'accès aux soins, il existe, il est gratuit pour tous, et il faut se rapprocher des associations et des professionnels de santé pour pouvoir bénéficier de tous ces dispositifs qui existent. Et l'accès aux soins, c'est un droit fondamental, et en France, on peut faire valoir ces droits. Donc, il faut vraiment que les gens... N'oublie pas qu'il y a des dispositifs, qu'on soit en situation régulière, irrégulière, primo-arrivant, oui. On peut accéder aux soins.
Alors, un petit rappel également des choses importantes à mener.
Je rajouterai tout simplement par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, quand on est sur le sol français et on a un problème de santé, il ne faut pas en rester là. Il faut d'abord aller directement vers les hôpitaux, les passes des hôpitaux pour les permanences d'accès aux soins de santé pour pouvoir se soigner. Le pire des cas, après les démarches, on peut y penser ensuite. Il y a des assistantes sociales sur place qui peuvent vous aider. Et je voulais aussi rajouter un élément qu'on n'a pas cité, c'est les aides financières individuelles. C'est très important parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant. On peut demander des aides financières individuelles auprès de la CEPAM, de la Sécurité sociale, pour financer, par exemple, pour les personnes âgées ou autres, quand on a un problème dentaire, pour financer des prothèses dentaires, des lunettes, des appareils auditifs aussi. Là, il faut beaucoup de gens ne sont pas informés.
Il y a des conditions à remplir.
En faire la demande, bien sûr, sur le formulaire, justifier, bien sûr, des ressources. Puis la Sécurité sociale, elle vous aide pour payer ses prothèses. C'est très important à le mentionner parce qu'on se trouve tous les jours face à des demandes comme ça. Les gens ne sont pas au courant qu'il y ait cette aide disponible pour pouvoir bénéficier d'un appareil, qu'il soit auditif, dentaire ou optique.
Merci de nous l'apprendre. Alors, docteur Madi des Nantes, important de rappeler aussi qu'il ne faut pas attendre des symptômes trop graves pour consulter un médecin.
Oui, c'est-à-dire quand quelque chose ne va pas et que ça dure plus que quelques jours, il faut consulter. Et c'est le médecin généraliste qui va voir si tout est simple, il va disparaître tout seul, ou s'il faut intervenir ou s'orienter vers un médecin spécialiste. Donc oui, il faut consulter.
Alors, tout au long de cette émission, on a parlé de beaucoup de différentes structures. Donc, n'hésitez surtout pas à aller juste après l'émission sur le site de la Radio Africaine. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les informations, toutes les adresses. Alors, l'espace santé, droit, Île-de-France, Comed, CIMAD est à l'hôpital, de l'hôpital Avicenne, répond au 01 43 52 69 55. C'est ouvert du mardi, les mardis et les vendredis de 9h30 à 12h30. Pour un soutien juridique auprès de la CIMAD, 01 44 18 60 50 pour un soutien juridique près de la, du Comed, 01 54 21 63 12. C'est du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30. Il y a également les GISTI, droit des étrangers. Donc n'hésitez pas à vous en rapprocher. Et puis les permanences de migration à santé, on en a parlé tout à l'heure, tous les vendredis sur rendez-vous à migration santé. Et un numéro de téléphone 01 42 33 24 74. 01 42 33 24 74. Madi Denante, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais conseiller aux auditeurs d'aller voir un très beau film qui raconte la naissance de la sécurité sociale, de cette belle histoire qui est la sécurité sociale. Oui. Ce film, il s'appelle La Sociale et c'est magnifique de voir comment on a réussi dans un moment difficile, on était dans l'après-guerre, à créer cette idée magnifique de la sécurité sociale.
Merci beaucoup. Il est à 9h51, on va se retrouver pour la suite d'Ambiance Africa. Merci mesdames d'avoir répondu à notre invitation.